Catherine Bellot, bonjour.
Bonjour, je peux vous appeler Pascal ?
Bien sûr, c'est mon prénom. Vous êtes la maman, vous, de Martin.
Oui.
On l'appellera comme ça, ce jeune homme, ouais. Aujourd'hui.
Oui, c'est ça.
Parce que c'est son histoire, ouais, que vous avez souhaité un matin raconter. Ouais. Parce que pour vous, ça a été un soulagement de raconter cette histoire. Ça vous a fait du bien.
Ça m'a beaucoup aidé.
Plutôt que d'aller chez un psy.
Oui, c'est un peu ça, un peu ça.
Ça a été une thérapie de raconter, oui, donc l'histoire de Martin.
Oui, parce que mine de rien, aussi douloureuse cette histoire soit-elle, j'ai beaucoup ri, je me suis beaucoup amusée en l'écrivant, en l'illustrant. Et vous comprendrez pourquoi lorsque vous découvrirez à travers le livre qui va naître prochainement.
Alors justement, parlons donc de ce livre, ce fameux « Gang des bonnets rouges ». C'était en 2018,
oui,
c'est là que tout commence, oui, pour Martin,
c'est
et
ça,
pour la suite du livre.
Oui, et bien effectivement, en 2018, Martin, qui est un jeune homme de 26 ans, qui vient de terminer ses études de botaniste, vient de terminer également un stage au Canada, décide de rendre visite à un de ses frères qui habite à ce moment-là en Martinique, et il décide auparavant de prendre son temps et de traverser les États-Unis à vélo. Voilà, et puis des États-Unis, il gagne les Antilles, où là, il fait quelques escales par-ci, par-là, en faisant à chaque fois de la botanique, en rencontrant des gens, jusqu'à atterrir en Martinique, où là, il passe un peu de temps chez son frère. Il y a de la famille qui débarque parce qu'on est tout proche de Noël. Et puis, un jour, bah, il commence à présenter quelques signes de fatigue, mais qui ne donne rien puisque mon autre fils qui habite en Martinique est médecin, lui fait faire des examens qui ne révèlent rien de plus que visiblement un microbe qu'il a chopé. Et puis voilà, l'affaire suit son cours, il se remet et il décide de rentrer en Europe à la voile, puisque a priori mon fils ne veut plus prendre l'avion pour des raisons écologiques. Et il se trouve qu'il prend la mer avec un équipage, et au bout de 15 jours ils ont une avarie qui les contraint à regagner les côtes guadeloupéennes. Et puis comme la réparation semble être assez conséquente, il décide finalement de rentrer par avion parce que comme il recherche du boulot, il ne peut pas se permettre d'être convoqué à un entretien alors qu'il est au milieu de l'Atlantique. Et donc il rentre en France et puis il a bien fait dans le sens où c'est très vite à son retour qu'il tombe malade. Nous, dans un premier temps, on ne s'en inquiète pas outre mesure parce qu'il a fait tellement de choses physiques qu'on met ça sur le compte de la fatigue, décalage horaire, etc. etc. Mais très vite, des premiers examens de santé montrent que c'est beaucoup plus grave. Et effectivement, il y a eu un soir où il atterrit en urgence à l'hôpital de Périgueux, et puis on lui fait des premiers examens, suite à quoi il est transféré dès le lendemain à l'hôpital Aulévêque à Bordeaux. Voilà.
Et là, on décèle ?
On décèle une leucémie. Ouais.
C'est à partir de ce moment-là que tout s'écroule, pour lui comme pour vous ?
Pour lui comme pour nous, oui, parce que forcément, personne ne pensait à ça, quoi. Quelque part, on a toujours tendance à se dire que ça n'arrive qu'aux autres. Eh ben non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça arrive à tout le monde. Et voilà.
Et c'est à partir de ce moment-là, dans une période perturbée pour,
ouais,
vous,
ouais,
fragilisée peut-être,
ouais,
que,
ouais,
vous décidez, alors que vous n'êtes pas écrivaine,
non,
de mettre noir sur blanc,
ouais,
de coucher des mots comme ça pour raconter peut-être votre détresse.
Le livre que j'ai écrit et illustré n'est pas du tout triste. Au contraire, il est très optimiste puisque la vocation aussi de ce livre-là est de parler de la maladie parce qu'elle est incontournable, elle fait partie de l'histoire de Martin, mais aussi dire que c'est une maladie dont on peut mourir, mais dont on peut guérir parce que, effectivement, la médecine, la science a bien, bien avancé, mais aussi parce que les patients qui ont la chance, tout comme Martin, de pouvoir bénéficier d'une greffe de moelle osseuse et de dons de sang peuvent s'en sortir, mais seulement à cette condition-là. Voilà. Et le but de ce livre-là, c'est vraiment de sensibiliser les gens à l'importance du don de moelle osseuse et non pas don de moelle épinière, voilà, c'est complètement différent, c'est quelque chose qui est complètement indolore. Le don en lui-même, que l'on soit donneur et que l'on soit receveur, ça se fait comme une prise de sang. C'est juste un peu plus long, ça prend 4 heures de son temps, mais 4 heures dès l'instant où il s'agit de sauver une vie.
Oui, bien sûr. Alors, vous n'êtes pas non plus destinatrice, et pourtant, dans cet ouvrage qui va sortir très bientôt, on en parlera à la suite donc de ces quelques premiers mots, il y a des dessins. C'est important pour vous d'avoir rajouté ces dessins pour s'adresser peut-être aux jeunes.
Alors, c'est vrai que initialement, ce livre-là, je l'avais écrit et illustré en me disant « ça va permettre à tous les neveux et nièces de Martin de comprendre ce qui est arrivé à leur oncle ». Et puis, parce que j'ai eu des encouragements dans mon entourage professionnel notamment, la psychologue de l'établissement dans lequel je travaillais, Chantal, parce que je la cite parce qu'elle est, je dirais, l'élément un peu détonateur de tout ça, qui m'a dit « mais il faut absolument que ça sorte du cercle familial, parce que ça peut être un super outil, parce que c'est vrai que c'était une époque où on trouvait très très peu d'ouvrages qui parlaient de la médecine, de la maladie, et qui pouvaient être lus par des enfants. Mais il peut être lu par des enfants, mais il peut être lu par tout lecteur, dans le sens où ça vulgarise un peu la maladie et ça permet de comprendre comment on peut soigner, on peut se faire soigner d'une leucémie et comment on peut en guérir.
Puisqu'aujourd'hui, Martin va bien.
Il va très bien, il va très bien. Il est sur d'autres projets, il est toujours botaniste. Enfin voilà, il est plein de vie, plein d'envie de vivre.
Comment a-t-il perçu ce livre ?
Au départ, je ne lui en avais pas parlé parce que de toute façon, il n'était pas trop en état de recevoir tout ça. Mais en revanche, à chaque fois que j'allais le voir à l'hôpital, je me nourrissais de tout ce que j'entendais de la part de ses frères et sœurs, de ses amis qui venaient le voir, qui l'avaient vu dans les mois qui avaient précédé la maladie. Et du coup, tout ce que j'entendais, je le gardais dans un petit coin de ma tête, ce qui m'a permis de reparler de ce qu'il avait vécu avant la maladie, aussi pour montrer comment en si peu de temps une vie peut basculer. Donc le fait de revivre à travers mes écrits et mes dessins les quelques mésaventures qu'il avait pu connaître, qu'il avait pu vivre, Ça lui a plu, et je pense que ce qui lui a plu, certes, il a été ému par la lecture de ce livre, mais en même temps, il a été réjoui, je dirais, par la façon dont j'ai traité ça.
Quel a été le regard de l'entourage au moment de l'annonce de la maladie ? Est-ce que ça a changé ? Est-ce que vous avez senti à ce moment-là qu'il y avait des tabous autour de cette maladie ?
C'est vrai qu'on a été... On a eu tous des façons complètement différentes de réagir. Moi, j'ai eu énormément besoin d'en parler, mais parce que ça correspond à mon tempérament. Mon mari, mes autres enfants ont eu plutôt tendance à encaisser le coup, mais sans trop échanger autour de ça. On se soutenait tous à distance parfois, puisque par exemple notre autre fils habitait en Martinique. Nos autres enfants, mon mari a deux autres enfants, des grands, qui habitent et en Corrèze et en Lorraine. Tout le monde était présent, mais à distance. Et donc, on a tous vécu différemment cette maladie, cette annonce, cette brutalité. Et moi, j'ai eu la chance, dans mon entourage professionnel, de bénéficier d'un soutien...
Sans faille,
ouais.
Ça a été important. Vous pensez que c'est un privilège, peut-être, que d'autres familles n'ont pas ce soutien-là ?
Très certainement, Très certainement, parce que quand vous avez parlé de thérapie tout à l'heure, peut-être que si j'avais été seule ou je sais pas quoi, peut-être qu'il aurait fallu que j'aille consulter. Bon, je sais que à l'hôpital du Haut-l'Évêque, on a très vite fait la connaissance de la psychologue du service, une femme extraordinaire, qui nous a rencontrés en disant, voilà, moi je suis là en tant que psychologue pour apporter mon soutien auprès des patients, mais pour apporter mon soutien auprès de l'entourage des patients. Et c'est vrai qu'un jour, je suis allée la voir pour lui faire part des inquiétudes, du questionnement et puis de la souffrance que je ressentais, oui.
Avec vous, Catherine Bello, on va parler de ce livre maintenant.
Oui.
Alors, bien sûr, il y a le don. Ça, c'est important.
Oui.
On va l'expliquer, comment on peut aider.
Oui.
Plus Martin, parce que maintenant, il va bien.
Ouais,
et voilà.
mais les autres. Ouais.
Voilà. Et puis surtout, ce livre. Alors, il y a eu l'association, le Gang des Bonnets Rouges, qui a été créé. Pour quelle raison ce nom?
Alors, pour la bonne raison que mon fils a toujours adoré les bonnets et qu'il en porte tout le temps. Et je suis partie de ça pour commencer à raconter mon histoire. Ça m'a aidée à imaginer un petit personnage qui pouvait ressembler à Martin, mais redessiné par sa mère. Donc c'est vraiment un tout petit personnage qui porte un bonnet rouge. Il aurait pu porter un bonnet rouge et bleu, puisque Martin possède également un bonnet rouge et bleu. Il possède aussi un bonnet bleu marine. Mais je trouvais que le rouge était plus visible. Et puis, mine de rien, il a la couleur du sang, ce bonnet-là. Donc, au final, c'est peut-être pas tout à fait anodin que j'ai opté pour ce choix. Et ce bonnet, il le met quand il fait une activité sportive. Alors, il le portait déjà avant, qu'il fasse de la voile, qu'il fasse de la rando. Et puis, il l'a porté pendant la maladie, puisque pendant la maladie, il a fallu se couvrir la tête durant une certaine période. Voilà, et ce bonnet-là, il a toute une histoire. Et j'ai imaginé alors, quand j'ai créé ce gang, que tous les enfants, en signe de ralliement, allaient également porter un bonnet rouge pour être repéré en tant que membre du gang.
Revenons à ce livre, bien sûr, et puis aussi aux dons, c'est important.
Ouais.
On va parler pour vous aider pour réaliser le livre, mais le don, c'est important parce qu'aujourd'hui, vous vous battez, bien sûr, encore pour Martin, parce que vous êtes sa maman, mais aussi pour les autres.
Ah ben oui, bien évidemment. Alors, il y a une première chose. On a lancé, on a créé l'association Le Gang des Bonnets Rouges et à partir de là, on a créé, on a lancé une cagnotte sur Hello Asso. L'objectif de cette cagnotte étant de recueillir des fonds pour financer l'impression du livre, dans un premier temps l'impression du livre et ensuite, une fois le livre sorti, c'est de financer les déplacements que je compte faire une fois le livre édité. C'est-à-dire que mon objectif, c'est d'offrir à tous les services d'hématologie de France, donc dans tous les CHU, il y a un service d'hématologie, donc il y a 38 CHU en France hexagonale. Donc je vais essayer de me rapprocher de ces 38 CHU, mais plutôt que d'envoyer le livre par la poste, moi ce que je veux, c'est aller à la rencontre de gens en m'appuyant sur des associations locales existantes, des associations locales qui ont la vocation de déjà faire la promotion du don de moelle osseuse. Puisque, effectivement, l'objectif de ce livre, c'est vraiment de sensibiliser les gens, plutôt les jeunes gens, puisqu'on peut être donneur de moelle osseuse de 18 à 35 ans. Ça peut aller au-delà, mais selon certains critères, mais plus on est jeune, plus on a de chances d'être compatible avec une personne malade et donc de pouvoir sauver des vies en donnant sa moelle osseuse.
Comme on le fait pour le don du sang, par exemple.
Comme on le fait pour le don du sang, sachant que le geste médical en lui-même est aussi banal, je dirais, et aussi peu douloureux qu'une prise de sang, puisque ça se fait sous forme d'un prélèvement de sang chez le donneur et ensuite une transfusion chez le receveur. Donc c'est un examen pour recevoir, pour retirer le sang du donneur. L'examen lui-même prend environ 4 heures. Le temps d'un bon film, puisqu'on a les deux mains prises, donc ça peut être difficile de tenir un bouquin, mais on a de quoi s'occuper, enfin bref. Et puis ensuite, le receveur, lui, se voit... Alors, on ne lui injecte, on ne lui perfuse que les cellules souches qu'on aura prélevées dans la moelle osseuse.
Est-ce que, hormis la tranche d'âge 18-35 ans, oui, il y a d'autres critères qui font que l'on peut être ou pas donneur ?
Alors, plus on est issu d'une famille nombreuse, plus on a de chances de trouver une personne compatible. La preuve en est, c'est que Martin, qui est issu d'une famille de 4 enfants, a eu la chance de trouver donneur auprès de 2 de ses frères et sœurs. Seulement, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une grande famille et tout le monde n'a pas la chance de trouver aussi rapidement un donneur. D'où la nécessité d'essayer de sensibiliser un maximum de gens pour s'inscrire sur le registre des donneurs, sachant que la liste, elle est mondiale, international. Donc, ça veut dire que vous pouvez très bien être appelé pour être donneur pour une personne qui habite en Thaïlande. Voilà.
D'accord. Et quelle est la démarche que l'on doit faire ?
La démarche, il suffit de s'inscrire en allant, par exemple, sur le site de l'agence de biomédecine. Là, on peut trouver toutes les recommandations pour devenir donneur de moelle osseuse. Je pense que si on va sur le site du don du sang, c'est pareil. Ben, sinon, on s'adresse à son médecin. Et puis, mais en tout cas, c'est quelque chose de très, très rapide. Ça peut se faire dans un premier temps. L'agence de biomédecine vous envoie un petit tube dans lequel vous crachez. Et c'est à partir de la salive recueillie qu'on va faire les examens. Donc là, geste complètement indolore. Voilà.
D'accord. Alors, on a bien compris donc ce geste, ce don que l'on peut faire. Oui. Le livre, et on va terminer cet entretien avec Catherine Bello, sur le livre, on peut donner jusqu'à quelle période sur HelloAsso ?
Alors, sur HelloAsso, jusque, je peux vous dire précisément combien de temps il reste, ça se termine fin juillet. Donc, pour connaître, on peut aller directement sur le site de HelloAsso et puis on tape le gang des bonnets rouges. Et là, vous avez la possibilité de donner en fonction de vos moyens. Et
c'est défiscalisé.
Et c'est défiscalisé à partir de 100 euros.
D'accord.
Voilà.
Donc, ensuite... au mois d'août, que va-t-il se passer puisque la cagnotte sera fermée?
Alors, la cagnotte sera fermée au mois d'août, mais au mois d'août, il y a des livres qui seront mis en dépôt-vente dans certaines librairies, déjà dans un premier temps de Dordogne. Je n'ai pas encore fini de prospecter, mais j'ai déjà 2 lieux en Dordogne, à savoir à Montpau-Ménestérol et à la librairie Délivrez-nous à Périgueux. Voilà, mais je ne vais pas m'arrêter là. J'ai encore beaucoup de pain sur la planche qui m'attend. Et puis ensuite, en s'adressant directement à moi, c'est possible aussi.
Y a-t-il un site internet ou des réseaux ?
Alors, on est sur Instagram et sur Facebook. Donc là, tout ceci sera précisé via ces supports de communication, oui.
D'accord. Ouais. Et donc ensuite, le livre avec vous,
comme
VRP,
c'est ça. Oui.
va vivre sa vie.
Oui, tout à fait, puisque moi, de mon côté, je vais me déplacer. Je pense que je proposerai dans un premier temps, par exemple, dans les médiathèques les plus proches, donc Bourdeille. Je vais vraisemblablement proposer à la médiathèque de Périgueux de faire une présentation de mon livre.
Ribérac.
Ribérac, bien évidemment, oui, c'est une bonne idée, merci. Merci Pascal d'y avoir pensé. Oui, bien sûr, voilà.
Bon, ben, on aura l'occasion alors de se croiser à nouveau pour voir l'évolution de ce gang et de ce livre, évidemment.
Absolument.
Est-ce que vous serez accompagné de Martin ?
Non. Non. Vous savez, Martin, je pense que pour le moment, il est très, comment dirais-je, il m'encourage beaucoup. Il est vraiment très, très content de ce que je fais. Pour le moment, il me dit que c'est encore trop tôt. Il m'a dit peut-être qu'un jour, je serai bénévole au don du sang, mais il faut que tout ça, ça mûrisse. Et, non, il est pas du tout indifférent, bien évidemment. Mais je pense que c'est trop tôt pour lui pour faire tout ça. Mais il le fera. Il le fera.
Bon. En attendant, le gang des bonnets rouges, on vous soutient, Hello Asso, pour même une petite somme,
oui,
ça n'a pas d'importance.
Absolument, hein. oui, tout à fait.
On peut vous aider.
Ouais. Eh bien écoutez, en tout cas, un grand merci à vous.
Restez au courant pour la suite.
Oui, merci Pascal, et puis merci aux auditeurs de Radio Liberté.
Merci Catherine, à bientôt.
À bientôt.